20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Il se confie dans un livre sur son parcours, ses rencontres qui ont jalonné sa vie de musicien et nous livre également sa lecture au disque des Goyescas de Granados, des pages qu'il jouera d'ailleurs en concert le 17 janvier au Théâtre des Champs-Élysées. Le pianiste Jean-Philippe Collard sera à cette occasion notre invité ce soir dans le journal du classique. Le temps de jeter un rapide coup d'œil sur les autres temps forts de l'actualité musicale. Un nouvel engagement pour le violoniste Renaud Capuçon qui vient d'investir dans la start-up française Nomad Play qui permet de jouer en immersion parmi les musiciens virtuoses. Nomad Play est un merveilleux moyen pour apprendre en se faisant plaisir. C'est réussir l'exploit de jouer avec un orchestre symphonique sa propre partie tout en étant seul dans sa chambre, apprendre une œuvre, acquérir des réflexes plus rapides en écoutant les autres parties. Ainsi a confié celui qui devient donc le prestigieux ambassadeur de ce projet ambitieux mêlant innovation et musique. Un projet porté depuis 5 ans par Clotilde Chalot et Anne-Laure Guitté, cofondatrice de cette plateforme musicale, déjà récompensée par de nombreux prix, notamment le Grand Prix de l'innovation de la ville de Paris. C'est la rentrée cette semaine pour l'Orchestre de Paris qui retrouvera pour l'occasion le grand chef suédois Herbert Blomstedt et le pianiste Bertrand Chamaillou, deux fidèles de la phalange parisienne. Rendez-vous demain et vendredi soir à la Philharmonie de Paris avec au programme le 23e concerto de Mozart et la 4e symphonie de Bruckner. Un opéra immersif à l'affiche demain soir du Théâtre Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray, et cela dans le cadre de la saison de l'opéra de Rouen-Normandie. Le collectif de création Miroirs étendus proposera ainsi son adaptation, sa transformation même de l'ouvrage de Gluck, Orphée et Eurydice, dans une version revisitée par le compositeur Othman Loiti, version sonorisée également. Des préludes, interludes et postludes ont notamment été ajoutés au sein d'une proposition inédite dans l'idée, nous dit-on, de souligner la solitude d'Orphée, de le mettre en scène dans sa douleur et son désarroi, son désir, son espoir et son combat. Quelques notes de Gluck du ballet des ombres heureuses d'Orphée et Eurydice. Orphée et Eurydice, revisités par la compagnie Miroirs étendus, sous la direction musicale de Fiona Mombé et Romain Louveau, et dans la mise en scène de Thomas Bouvet. C'est à découvrir demain soir au Théâtre Rive Gauche de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Laure Maison sur Radio Classique.
C'est donc avec Jean-Philippe Collard que nous passerons un petit moment à présent, alors que paraîtra la semaine prochaine son nouvel enregistrement sous le label La Dolce Volta, consacré aux Goyescas de Granados. Et alors que vient d'être publié aux éditions Alma Nuvis un livre de confidences intitulé Chemin de musique, dans lequel le pianiste nous raconte son parcours, nous fait partager ses souvenirs et ses réflexions sur le métier de musicien. Jean-Philippe Collard revient pour nous ce soir sur la genèse de ce livre.
Je réponds à une demande pressante Sinon, je crois que j'aurais pas eu le courage, l'idée, ou même le désir de d'écrire quelque chose sur moi, d'employer le « je », qui est une chose qui ne me va pas très bien, au fond. Mais le désir d'écrire est venu assez vite. Pourquoi sous cette forme panoramique, un peu, c'est pas une autobiographie vraiment, c'est quelques épisodes de mon existence, avec un point commun, avec un fil tendu à l'extrême, qui est celui de l'amour de la musique, en fait. C'est une ode à la musique plutôt que mes petites histoires de voyage, mes anecdotes. Dieu sait si on en a, on peut en rajouter, les déformer, tout ça. Non. C'est la musique qui tient la plume la plupart du temps dans plusieurs exercices, tout petit, dans une chorale. Toutes les émotions, au fond, que j'ai eues, et y compris sur scène, bien entendu, mais pas toujours dans les endroits que l'on croit.
Et ce livre, vous l'avez écrit tout seul, vous n'avez pas choisi la formule de la confidence face à un interlocuteur?
C'était le plan de départ, c'était ça. Et puis, après avoir confié mon âme à un correspondant qui est venu courageusement me voir une quinzaine de fois, le résultat m'est apparu sans réel intérêt littéraire, en tout cas. Alors, c'est prétentieux de dire ça, surtout quand on n'a jamais, on n'est jamais passé par cet exercice, mais j'en ai quand même fait quelque chose qui me plaisait, avec un choix de mots, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai voulu aller au fond des choses et argumenter ma pensée en la plongeant dans la plume de l'imagination aussi, parce qu'on peut rêver que la musique soit un jour le langage de tout le monde. C'est ce que j'explique au fil de mon livre. La musique, c'est le seul langage que tout le monde connaisse et que tout le monde peut pratiquer avec sa propre voix, déjà, ce qui est un véritable miracle. C'est tout ça qui m'a animé au long de ma carrière, comme il faut le dire, mais comme je ne l'écris pas d'ailleurs dans cet ouvrage, mais dans mes rencontres avec des grands musiciens, ça m'a beaucoup impressionné. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est la rencontre avec les gens qui viennent spontanément au concert.
Et vous en parlez beaucoup, hein,
ouais. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais. Non pas que je me sente une force de conviction plus élevée que celle de mon voisin, mais je crois que l'artiste aujourd'hui, il a un rôle non seulement de faire donner du répertoire, des bonheurs, des émotions dans les salles dédiées, mais il a aussi, plus que ça, une vocation à aller vers les autres qui ne se limite pas aux salles de concert traditionnelles.
Los Requiebros, quelques notes de la première pièce des Goyescas que vous venez d'enregistrer, Jean-Philippe Collard, alors que vient de paraître votre livre de confidences, Chemin de musique. Los Requiebros, qui veut dire les flatteries, les compliments, vous en avez eu des compliments, des flatteries tout au long de votre carrière. Vous avez eu aussi des échecs que vous racontez dans ce livre de confidences, et on sent toute votre persévérance, oui, toute votre volonté qui vous a permis de poursuivre ces chemins de musique.
Oui, oui, et c'est vrai, ça m'a toujours fait rebondir, ça m'a désespéré. Il y a eu des choses que je considérais comme injustes. Oui. Par exemple, de me faire mettre à la porte de chez Robert Casadesus un jour, ça m'a profondément marqué, mais pas longtemps. Et en tout cas, j'avais pour refuge ma famille, qui m'a toujours beaucoup soutenu, qui a toujours été présente dans les moments difficiles. Il y a eu ça, il y a eu le conservatoire, duquel je ne garde pas un grand souvenir, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui quand même devait le sentir, cet établissement, puisqu'il m'a jeté hors du troisième cycle d'études, alors que j'avais 18 ans. Donc tout ça, ça a été des moteurs terribles. Oh, je ne vais pas parler de vengeance, mais j'ai été touché par...
On se construit avec ses échecs.
Oui, oui, et ça m'a donné une sorte de motivation.
Une force.
Oui, en tout cas, voilà, la musique, elle, a toujours été là, fondamentalement au fond de moi, par le biais de cette épreuve chorale. Vous savez, chanter avec les autres, ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose de... Il y a une émotion qui se dégage de cette démarche, et c'est ça qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, en fait. Je dis aussi que après certains concerts, quand il y a un chœur qui s'exprime en deuxième partie, que j'ai fini avec mon concerto, je file derrière, avec la permission du chef d'orchestre, et puis je vais donner un coup de main au baryton, au basse, pour rechanter toutes ces œuvres merveilleuses que j'ai chantées quand j'étais jeune.
Grâce à votre père, qui a organisé ces concerts de chorale, vos parents dont vous parlez beaucoup, vos parents, tous ceux qui ont accompagné votre parcours, vos professeurs, et parmi vos professeurs, il y a Pierre Sancan. Mm. Pierre Sancan, avec qui vous développez cet art de la couleur que l'on perçoit notamment dans ces Goyescas de Granados, avec qui vous prenez sensation de l'importance du timbre. Est-ce avec lui que vous avez appris à pétrir la matière sonore, à inventer des couleurs, à mélanger des pigments, je reprends vos mots?
Oui, j'ai commencé en réalité avec une assistante de mon professeur au conservatoire. Oui. C'est elle, petite bonne femme courbée, qui était élève d'Ivnat, et elle savait des choses sur le piano. Et c'était des choses confidentielles, mais elle les exprimait avec une voix très douce, et elle expliquait comment, au bout du doigt, on pouvait sentir, on pouvait avoir des émotions, des sensations, en fonction des sonorités que le piano émettait. Et c'est mes plus anciens souvenirs de création de la matière sonore, c'est grâce à cette femme. Puis après, Pierre Sancan, il a multiplié, il m'a donné une technique pour éprouver tout ça, pour multiplier justement cette palette de couleurs. Il était très attaché à ça, et notamment par le biais du répertoire français et du répertoire germanique. Ça n'était pas qu'un faiseur de pianiste, comme on l'a dit, parce qu'il avait des méthodes qui ne plaisaient pas à ses confrères.
Assez redoutable d'ailleurs, hein, raconter sur le plan technique,
oui,
et physique.
Il fallait passer, il fallait y aller. Il y a eu deux ans terribles, quoi. Un an et demi, deux ans de technique matinale, mais il fallait bien que je l'apprenne, cette technique.
Pour apprendre cette souplesse, justement.
Oui, puis pour sentir ses épaules, son buste. Mais au-delà de tout ça, Pierre Sancan, c'était une lumière. D'abord, c'est un homme qui avait beaucoup d'attachement à la discipline du travail, à la discipline technique. Il était très rigoureux, et à l'époque de mon adolescence, j'avais besoin d'un maître, et avec un M majuscule. Et puis ça s'éclairait, ça s'enluminait au fur et à mesure des cours, parce qu'on était dans Debussy, dans Ravel, dans Fauré, dans Schumann, et il avait tout le temps l'idée de transcrire par le biais des doigts, de transcrire des couleurs, des harmonies, des architectures, et ça a été très précieux. C'est mes vraies études, c'est ça, ouais.
Donc il y a eu Pierre Sancan qui a joué un rôle important dans votre parcours, Jean-Philippe Collard, comme vous le racontez dans ce livre. Puis il y a eu bien sûr Vladimir Horowitz, dont vous avez été proche, que vous avez rencontré. Vous racontez de multiples anecdotes à propos de ce pianiste, et on sent votre immense admiration pour Vladimir Horowitz. Vous parlez de lui, vous racontez ses ondes magiques, ses vibrations qu'il provoquait en vous, mais en même temps, il ne vous a pas tant influencé que cela. Vous aviez déjà votre propre personnalité. personnalité. C'est une amitié plus qu'un modèle, quelque part, ou
oui,
comment définir votre relation?
Un compagnonnage, oui. En fait. Bon, elle habite à New York, c'était pas, je le voyais pas toutes les semaines. J'avais à cœur de m'approcher de ce que j'avais essayé d'imaginer en termes de son, de fabrication du son. Et j'ai eu beau m'approcher à quelques centimètres, j'ai toujours pas compris comment il pouvait émettre des sonorités pareilles. C'est un magicien absolument incroyable. Et puis c'est un homme de grande culture et qui m'avait pris en affection et avec qui on a parlé beaucoup de musique. Et surtout, il avait pris cette bonne habitude quand il y avait des concerts qui approchaient pour lui. Il me demandait toujours d'écouter son répertoire. Alors j'étais dans le canapé et puis j'écoutais Eurovis. Bon, la seule petite difficulté, c'était de parler après, parce qu'évidemment, il voulait savoir ce que j'en pensais. C'est quand même un peu délicat de lui dire ce que j'en pensais, sauf pour éviter la flagornerie, il fallait bien aller dans le sens de la vérité et de mon ressenti par rapport à ce qui sortait. Alors que c'était la musique française, je pouvais me permettre, quoi. Quand il me balançait la sonate de Liszt, comme ça, ce que je dis, j'étais plein d'admiration, c'est tout ce que je pouvais faire.
Écoute à l'instant Jean-Philippe Collard jouer Granados, El Fandango de Candile. C'est un extrait de votre tout nouvel album qui sort ces jours-ci sous le label La Dolce Volta. Comment Granados est-il arrivé dans votre vie de musicien? Vous n'en parlez pas dans ce livre, Les chemins de musique. Vous mentionnez bien des compositeurs. Est-ce que Granados, vous l'avez rencontré via Fauré, via Chopin, via Liszt? Autant de noms qui nous viennent à l'esprit quand on écoute sa musique.
Oui, exactement. C'est un peu une continuité dans le cheminement de ma pensée. Et c'est vrai que j'ai trouvé chez ce musicien bien des terrains qui me passionnaient, notamment celui de la couleur, cette couleur du sud et ces couleurs chaudes. Et au-delà de ces couleurs, il y a chez cet homme quelque chose d'impressionnant quand il confie son âme amoureuse, en fait. Et puis quand il parle de la mort aussi, ça n'a pas été une chose facile. Granados était un immense pianiste, de ce qu'on peut entendre sur des enregistrements de piano à rouleau. Il a une technique absolument éblouissante. Et surtout, il avait un rapport avec l'espace qui nous est totalement étranger, nous, avec nos techniques qui sont bien rangées aujourd'hui, bien construites, bien prudentes aussi. Je rappelle quand même pour mémoire que chaque concert que n'importe quel artiste donne sur la planète entière aujourd'hui est d'une certaine manière écouté, enregistré, retransmis sur la moindre précaution. Donc on a tendance, nous les artistes, je le dis avec un nous général, à resserrer un peu nos façons de jouer. On ne peut plus s'exprimer de la même manière, de peur de passer au-delà et d'avoir quelques petits accidents de parcours et tout ça. Ça n'était évidemment pas le cas quand c'était Granados, qui n'en mettait pas une à côté d'ailleurs, mais en tout cas on sentait dans son jeu une extrême liberté et une prise d'espace qu'on ne s'autorise plus. Aujourd'hui, on prend des précautions pour attaquer une note. On ne va pas la jeter comme on l'aurait fait au temps de Chopin, de Schumann, en l'envoyant dans l'espace comme ça. Aujourd'hui, elle est totalement contrôlée. Et c'est ça qui m'a donné, c'est cette distance-là entre ces deux façons de jouer qui m'a donné le plus de difficultés. Mais le résultat, c'est une féerie permanente, quoi. Et surtout un refuge de confidence, c'est-à-dire que selon les nuages qui se promènent dans le ciel, il fait beau, il fait mauvais, il fait pluvieux et tout ça, on adapte son jeu à la température de son âme, et c'est surtout ça qui me plaît.
Et qui nous touche profondément dans cet enregistrement qui vient de paraître sous le label La Dolce Volta. Est-ce que vous avez l'impression, Jean-Philippe Collard, de pouvoir encore aujourd'hui justement vous libérer, vous parlez beaucoup de l'évolution du milieu musical, des concerts, avec l'arrivée des réseaux sociaux, d'Internet, cette mondialisation de la musique, tout ce que cela a changé. Vous arrivez aujourd'hui à ressentir les mêmes émotions d'artiste, à nouer les mêmes liens avec le public?
C'est pas tout à fait de même nature. Moi, ce qui m'a beaucoup préoccupé, ce qui continue de le faire d'ailleurs, c'est en même temps que ce développement des technologies qui en effet nous interdit d'aller notre chemin en pleine liberté pendant les concerts, c'est la taille des salles aussi. Je ne suis pas un adepte de ces grandes salles. Je ne suis pas très à l'aise, autant dire les choses comme elles sont. Il y a quelque chose d'écrasant dans le fait d'être le seul interlocuteur de 2000 personnes. J'ai l'impression que le message n'arrive pas tout en haut, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On n'a que 10 doigts et un instrument. Et il faut que les gens s'approchent, il faut que les gens soient concentrés, il faut que les gens voient votre visage, il faut qu'ils participent, il faut qu'ils communient. Sinon, la musique n'a pas de raison d'être partagée.
Mais le Théâtre des Champs-Élysées, où vous jouerez le 17 janvier, où vous avez si souvent joué, où vous avez de grands souvenirs, même en tant que spectateur, c'est la bonne taille.
C'est la bonne taille, c'est la limite, c'est la limite. Oui. Mais il est à l'italienne, donc voilà, il y a quand même une espèce de convivialité qui s'installe. Et moi-même, en tant qu'auditeur, j'ai entendu des concerts miraculeux et qui me rendent un peu petit, quoi, voilà, disons-le.
On vous retrouvera avec plaisir, Jean-Philippe Collard, le 17 janvier sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées, où vous jouerez ce cycle de Goyescas de Granados, dont vous venez de nous offrir un magnifique enregistrement. Vous jouerez Chopin et Forêt pour accompagner.
De Chopin et la miraculeuse balade de Forêt.
Voilà, Forêt, un compositeur dont vous parlez beaucoup dans votre livre de confidence. Écrire un livre, c'est revenir en arrière. Vous parlez de votre enfance, vous parlez de vos parents, vous parlez de votre Champagne natale. Est-ce que cela a fait naître en vous une forme de nostalgie lorsque vous avez écrit ce livre ?
Non, enfin disons, j'ai convoqué quelques souvenirs, je leur ai demandé de revenir au premier plan de ma mémoire. Ça m'a fait beaucoup de bien, par exemple, de parler de mon père, c'est d'écrire, pas d'en parler, mais d'écrire des choses sur lui. J'ai bien aimé ce retour, ce panorama, mais bon, c'est tout à fait personnel. Simplement, quand la musique s'en mêle, ça donne une dimension complètement différente. J'ai cette chance d'avoir posé mes mains, mes mimines sur un clavier quand j'avais 5 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que, quelques années après, quelques décennies plus tard, j'ai toujours le même appétit pour aller faire sonner ce piano, quoi. Même si les jours je suis fatigué. Et c'est miraculeux. Et quand j'entends des gens qui, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont fait du piano dans leur jeunesse, puis qui ont dû arrêter pour cause d'études ou de goût, qui naviguent ailleurs. Et vers l'âge de 30 ans, 40 ans, je vois ces gens qui me disent « Ah là là, que vous avez de la chance, et nous on a arrêté. » Mais j'ai dit « Mais accrochez-vous, continuez, venez, on va en parler. » La musique musique, c'est, ça transforme. Ça... Puis comme exécutant, c'est un tel lien pour parler aux gens, pour leur dire bonjour, bonsoir. Écoutez comme c'est beau. Écoutez, écoutez, c'est pas moi, c'est cette musique miraculeuse, quoi. Alors ça, ça remplit votre vie. Et puis en plus, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez glisser à l'intérieur de vos interprétations, tout en respectant le, ce qui est écrit. Vous pouvez glisser tellement de petites confidences que vous n'osez pas écrire dans le livre.
Voilà, donc il faut faire les deux, vous écouter, lire le livre. Les chemins, chemins de musique, chemins au pluriel, hein, puisque vous en avez emprunté des chemins, Jean-Philippe Collard. Cela vient tout juste de paraître aux éditions Alma Nuvis. Un livre très touchant, une très belle plume, très agréable à lire. Sous le label La Dolce Volta, ce magnifique enregistrement des Goyescas de Granados et ce rendez-vous du 17 janvier au Théâtre des Champs-Élysées. Merci infiniment d'avoir passé un moment avec nous.
Merci à vous.
Cueras o la Maya y el Ruiseñor, un nouvel extrait de ces Goyescas de Granados, sous les doigts de Jean-Philippe Collard, un enregistrement qui sortira la semaine prochaine sous le label La Dolce Volta, des Goyescas que Jean-Philippe Collard jouera en récital le 17 janvier au Théâtre des Champs-Élysées. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Toro-Lassalle pour la réalisation de cette émission. Demain, nous évoquerons la rentrée de l'Opéra Comique en compagnie de son président Jean-Yves Laroutourou. Et tout de suite, votre soirée se prolonge en musique avec Francis Drezel.